En Gaspésie, c'est beau. Passer sur le pont couvert de Grande Vallée en Gaspésie, c'était tellement beau. Un pont de vieux bois peint en rouge, sans bœuf. Et le toit, blanc, 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 blanc. C'est comme si la rivière, un bon matin, avait eu besoin d'un parapluie. Le vois-tu comme c'est beau? Tellement.
C'est beau chez nous parce que chez nous, il y a si court un peu partout.
La Gaspésie, le Québec, c'est beau. Surtout grâce à Sico. Comme le disait Claude Gauthier dans Le plus beau voyage, « Je suis de sucre et d'eau d'érable, de paternoster, de credo. Je suis de 10 enfants à table. Je suis de janvier sous Sico. » Eh bien, ça tombe bien parce que cette semaine, à Dans le champ lexical, on vous parle de peinture. Bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Chaque semaine, on choisit un terme et on s'en sert comme fil d'Ariane. Cette semaine, vous l'aurez compris, on vous parle de peinture. Mais pour mieux comprendre ce qu'est la peinture, nous avons demandé à une de nos plus fidèles collaboratrices, Linda Tremblay, de nous expliquer un petit peu mieux les tenants de la peinture.
Bonjour, laissez-vous envahir par la couleur. La peinture a la source de nous produire des effets de plus en plus attrayants les uns que les autres. Et ces combinaisons sont souvent étonnantes. Vous savez que vous pouvez peindre sur vos murs et donner réellement des impacts époustouflants. Nous avons remarqué avec le temps que la couleur réellement est un antidote à la vie tumultueuse que l'on subit présentement. Celle-ci donne réellement du corps, donne de la vie, de la chaleur à notre maison, lui donne de la luminosité. Et ainsi, nous remarquons que le bois qui se mélange à notre impact, qui se veut un petit peu moderne, est réellement rehaussé et réapprécié, parce qu'on apprécie le bois.
Ah! OK! Mais pour être sûr que vous avez bien compris là, le concept peinture ou enfin que vous avez compris quelque chose en général de l'émission, eh bien, nous avons demandé à Myriam Dagouzan-Bernier, mieux connue par les internautes comme étant Ma mère est hipster, blogueuse à mamareethipster.com. Elle travaille en éducation muséale à DHC Art, un lieu d'exposition dans le Vieux-Montréal qui amène le public autant à la contemplation qu'à la réflexion à travers différentes expositions, projections et discussions. Et tous les sillons que je viens de vous nommer sont gratuits.
Plus jeune, je me souviens avoir insisté pour que ma mère m'achète un ensemble de peintures à numéros. Passe-temps plutôt kitsch, voire non artistique, la peinture à numéros est plus proche du bricolage que d'un art en bonne et due forme. Mais ce qui me fascinait dans la peinture à numéros, c'était d'être contrainte à suivre les lignes, de me contenter de remplir un espace vide, délimité par quelqu'un d'autre que moi. Grâce aux numéros, je me sens en sécurité dans la page blanche de la toile. J'applique là où on me dit de le faire et ça me rend confortable. C'est moins engageant, moins impliquant émotivement. Et aussi, chaque couleur a son numéro, son appellation. Mettre du rouge sur le 1, mettre du jaune sur le 5. Quand j'ai demandé autour de moi de me dire ce que le mot « peinture » signifiait pour eux, l'idée de déménagement est revenue très souvent. On imagine des murs blancs, des espaces à couvrir. Encore une fois, je pense que c'est satisfaisant de penser que les cubes qu'on habite seront bientôt recouverts d'une couleur qu'on aura choisie. Et là aussi, les couleurs sont numérotées, classifiées. Lagon limpide, 6151-63. Au miel du printemps, 6095-32. Croûte basaltique, 6208-31. Douceur d'harmonica, 6095-21. Ou encore orange dynastique, 6065-64. La poésie des couleurs et des chiffres se multiplie à l'infini. Tout ça me rappelle une artiste montréalaise, Aude Moreau. En 2001, elle s'est intéressée à ce que les gens de Montréal appliquent comme couleurs sur leurs murs. La demoiselle a effectué une longue et exhaustive recherche dans toute la ville pour cumuler les restants de peinture que les habitants de Montréal gardent tous, qui dans leur remise, qui dans leur dessous d'armoire de cuisine. À partir des dizaines et des dizaines de pots de peinture amassés, elle a créé une immense carte de Montréal. Son projet s'intitule, fort joliment d'ailleurs, « Topographie de la couleur résiduelle ». C'est comme une forme d'étude sociale, de regard anthropologique. D'un seul coup d'œil, on découvre dans les appartements de la ville une tendance au gris, au terne avec quelques éclats de couleur ici et là. On réalise aussi qu'on appose le plus souvent des peintures aux noms joviaux et positifs. Des peintures qui donnent faim, par exemple, Réfort, quartier de Cantalou, ou des peintures qui font rêver, pièces de musée, musical, d'autres qui évoquent nos émotions profondes, premier amour, séduction. C'est comme si on se créait une thérapie par la peinture. Parce que peinturer son appart, au fond, c'est un peu organiser l'univers, à petite échelle. C'est classifier, trier les lieux selon une logique bien à soi. C'est un rapport presque mathématique, scientifique. On aime bien s'imaginer que la peinture des grands maîtres aussi vient de l'inconscient de l'artiste, qu'un génie se cache dans l'être qui peint. C'est donc dire que la peinture contient cette essence de la transformation, voire de la transsubstantiation. Ainsi, quand Vincent Vaillancourt choisit solo de sax, par exemple, pour décorer son walk-in, il n'est en fait qu'à un pas du spleen de Vincent Van Gogh et son jaune de chrome. Je m'emporte un peu, bien sûr, mais quand même, il y a du sacré dans la peinture, une forme de magie. Dans Curiosité esthétique, Baudelaire disait même « Manier savamment une langue, c'est pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire. C'est alors que la couleur parle, comme une voix profonde et vibrante, que les monuments se dressent et font saillie sur l'espace profond. » Bon, il y a un monde entre Baudelaire et peinturer sa salle de bain, j'en conviens. Mais quand même, on se sent plus en harmonie avec l'univers lorsque l'on recouvre de rêvasserie notre chambre à coucher, que l'on met une couche de cerises éclatées dans notre cuisine, ou qu'on habille son bureau de tarte à la lime.
Entre l'été et l'automne, prison de mœurs et des amours à téléphone. Et puis elle joue, et puis me déjoue, et à son jeu j'ai tout perdu. Mais moi je m'en fous car sous sa robe se cache une issue. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Sa vie à se courber le dos dans les jardins de nos ébats. Il y a un secret, en fait le tien, auquel tu tiens bien plus que moi. Et tes amants qui par milliers viennent déterrer ce que j'ai trouvé. Allez creuser, allez crever dans les sentiers de sa beauté. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Oh,
L'idée, c'est vraiment de rendre perceptible le mouvement de la peinture liquide en vol entre le moment où on la lance et le moment où elle arrive. Alors, comme c'est quelque chose d'imperceptible à l'œil parce que c'est trop rapide, c'est ce moment-là qui m'a intéressé.
Depuis 2003, plusieurs millions de personnes à travers le monde ont vu le film de 9 minutes « Oyo » de Simon Goulet. Ce film-là, c'est 56 couleurs, 7000 mètres de pellicule, 33 000 images numérisées, 360 images par seconde, une catapulte et 540 litres de peinture. Mais comme le rendu est assez complexe à expliquer, je laisse l'artiste le raconter.
Alors, l'histoire est très, très longue et très complexe, mais je vais te faire une histoire courte d'abord, d'accord? Alors, en 1981, je suis en train de faire un film en Super 8 sur l'art abstrait avec mon coloc. Et là, l'artiste lance la peinture au travers d'un cadre sans toile, parce qu'on voulait aller à l'abstrait à son paroxysme. Et là, j'ai filmé ça au ralenti. Et quand j'ai vu les images, je me suis dit « Ah ah! Ça serait intéressant de voir la même chose, mais en extrême ralenti, et de voir des jets de peinture, des centaines de jets de peinture en même temps passer dans le cadre. » Et là, ça, c'est l'idée de base. 10 ans plus tard, lorsque les effets numériques arrivent, je me dis « Ah ah! C'est le moment de mettre ce projet en chantier, parce que les effets numériques permettent de faire des multicouches, des milliers de couches, sur une même image, sans en altérer la qualité. » Et donc, c'est un projet que j'ai mis en marche en 1992. Et là, ça a été difficile parce que lorsque je décris à quelqu'un, attention, je vais filmer de la peinture en vol, au ralenti, je vais faire un assemblage pour faire une peinture abstraite en mouvement, personne ne peut le visualiser parce que c'est quelque chose, c'est un mouvement trop rapide, on ne peut pas le voir à l'œil.
Et ça n'avait jamais été fait. Auparavant.
À ce que je cherche, ça n'a jamais été fait.
J'imagine qu'il y a différentes façons. C'est une étude également, donc c'est des essais. Mm. J'imagine qu'il y a différentes façons de la lancer, la peinture, et des façons plus concluantes peut-être que d'autres.
C'est essai-erreur. Et essai-erreur, ça veut dire que, en fait, la façon dont je lance la peinture dans les airs, c'est avec des pots. Et la forme du pot dans lequel le matériau est inclus, lorsqu'on le lance, c'est la forme du pot qui crée la forme, dis-moi, qui donne l'élan. Qui donne l'élan à la forme du matériau dans les airs. Et lorsque j'ai trouvé des formes de jets de peinture dans les airs qui étaient vraiment belles, vraiment esthétisantes, esthétiques, alors ça a été choisi comme ça. Et là, je me suis dit, ah oui, tiens, je peux faire une séquence de fleurs, par exemple, avec le pot numéro 9, lancé avec tel paramètre, tel type de viscosité, tel type de couleur, tu sais. La catapulte est là, elle est repliée.
OK, c'est gros.
Ça, c'est un... Tu vois-tu les barres de fer en bas?
Ouais.
Bon, ça, c'est par terre.
OK.
Et les barres de bois, c'est comme... Ça rouvre comme ça. OK. Et là, il y a un chariot sur des roues qui est déclenché, qui est retenu avec des ressorts de porte de garage. Là, cling, on déclenche ça, puis pouf, ça part comme ça.
OK.
Ça monte, mais là, ça monte jusqu'au plafond. Regarde.
Ah, ben oui, je vois les
là, on accroche une caméra au plafond, comme ça, on filme comme ça.
OK. En fait, je trouve que ça fait un petit peu comme de la peinture qui danse à l'écran. Et puis, d'ailleurs, la musique, tu as travaillé avec René Dupéré. Est-ce que tu as travaillé avec lui? Est-ce que la trame existait? Est-ce qu'il a regardé le film pour faire la trame?
Oui, on a travaillé ensemble. Et j'ai pris sa musique, qui était déjà existante. Alors, les deux. Ce qui est intéressant, c'est que l'image a pris 8 ans pour se faire du film. Et ça m'a pris 3 ans, après avoir travaillé à 8 compositeurs différents, pour trouver cette musique-là. Qui m'a satisfait à 100% d'ailleurs, même si elle ressemble à la musique du cirque, je m'en fous là, c'est pas ça, c'est que c'est la musique de ce film-là, OK? Mm-hmm. Et là, avec René, ça a été très très facile parce que c'est un homme formidable, pas compliqué. Et puis, donc, avec René Dupéré, on a resynchronisé les portions de la musique qui existaient déjà, et René a composé de la musique dans les trous qu'il y avait.
Okay.
Pour le début aussi, pour le générique de début, le générique de fin, il a tout patché les trous. Et on a rajouté aussi des trucs ensemble, des petites phrases musicales par-dessus pour appuyer, vraiment. Parce que le rapport image, mouvement image, mouvement sonore dans ce film-là, moi j'aime bien que la musique soit très, très synchronisée sur le mouvement de l'image.
Mm-hmm.
Donc, quand il y a un jeu de peinture qui rentre dans le cadre, là, il y a des phrases musicales qui commencent. Ce qui est fun avec ce projet-là, c'est que non seulement c'est une peinture abstraite en mouvement, mais étant donné que c'est un film, donc on exprime un matériau avec un autre, avec un médium, qui est le cinéma, qui est linéaire, forcément, il faut amener le spectateur du point A au point B, et il faut raconter une histoire. Et donc on regarde des images, des fiches de peinture, c'est fascinant. Chacune d'entre elles vient s'incruster dans notre rétine, mais en même temps, il y a une histoire qui se construit parce que les jets de peinture s'organisent. On sent une organisation. Déjà au milieu du film, on sent l'organisation qui se fait. Avant, à ce moment-là, c'est la symétrie. À un moment donné, c'est l'organisation des jets de peinture. Je pense à la séquence des vagues bleues là, au milieu. Et après, c'est la multiplication. Mais ce film-là, il y a quelque chose de particulier qui vient nous chercher. Là, que je ne sais pas comment expliquer de toute façon. Écoute, je l'ai vu peut-être 2500 fois, là, puis je suis pas encore tout à fait écœuré.
Goulet va bientôt faire une exposition collective aux ateliers Jean Briand au mois de juin, où il présentera entre autres sa peinture sur rien. Donc, pas de support. C'est à voir.
Pour découvrir les œuvres des grands maîtres de la peinture sans sortir de chez soi, il y a les livres, les musées virtuels et YouTube. Car si les peintres et leurs œuvres ont inspiré plusieurs chansons, chacune a maintenant droit à son petit diaporama musical sur le célèbre site.
Silence les crayons sur les branches immobiles.
C'est avec des images romantiques de blues pleines de taches et de barbe en bataille que France Gall rend hommage en 1984 au peintre impressionniste Paul Cézanne dans la chanson « Cézanne peint ». Selon la chanteuse française, lorsque Cézanne peint, il laisse s'accomplir la magie de ses mains et éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien, sauf sur YouTube, bien entendu.
Des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne peint. Laisse s'accomplir la magie de ses mains.
Le Belge Pierre Rapsa, lui, choisit plutôt d'honorer la mémoire de Gauguin. Dans son style puissant, oscillant entre rock et chansons françaises, bon, du moins selon Wikipédia, Rapsa nous raconte, dans une abondance de rimes en un, l'histoire de ce bourgeois qui quitta sa femme et ses biens pour aller sur des chemins incertains au rendez-vous de son destin. Et tout comme France Gall, il compare le peintre à un magicien.
Que rêves-tu, pauvre Gauguin? Là-bas dans l'île de lumière, comme un génie qui crie en vain, dans une lampe d'Aladin.
Carl Simon ne s'attarde ni à l'œuvre ni aux considérations biographiques dans sa chanson René and Georgette Magritte with their dog after the war. Le titre est inspiré d'une photo qui porte le nom de René and Georgette Magritte with their dog during the war. Mais de toute façon, la photo du peintre surréaliste et de son épouse aurait été prise en 1967. Dans sa chanson, Paul Simon imagine que le couple Magritte cache un amour de la musique doo-wop et danse en secret à son hôtel au son de groupes comme The Penguins et The Moonglows.
René and Georgette Magritte with their dog after the war return to their hotel suite and they unlock the door. Easily losing their evening clothes, they dance by the light of the moon. To the penguins, the moon glows, the orioles, the fire sands, the deep forbidden music they'd been longing for. Renee and Georgette Magritte with their dog after the war.
Dans la chanson Blue Period Picasso du groupe Peter Bjorn and John, c'est plutôt les états d'âme d'une œuvre que nous découvrons. Un tableau de la période bleue de Picasso se sent seul sur le mur d'un hall à Barcelone et voudrait bien pouvoir se décrocher ou alors être volé afin qu'on l'emmène loin des madames et des touristes japonais. Il veut qu'on le vole tout court et il veut qu'on vole son cœur aussi. Il a les bleus, quoi.
But I'm not just being blue, 'cause I form and shape and color too. But I miss you, and that's the content, that is the focus, that is what all the school is reading to us. Us just a part of what I am, it's just a part.
C'est aussi une œuvre qui est personnifiée quand Barbara se met dans la peau de la Joconde, chanson sur laquelle s'arrête cette semaine dans le champ lexical. C'est donc par des rimes en onde que Barbara nous dit qu'elle est la Joconde, connue de par le monde, que Léonard crut gironde et qui n'est pas trop immonde, la Joconde.
En hommage à Léonard de Vinci, Paul Brafort a écrit une chanson qu'il a intitulée « La Joconde ». C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard me crut gironde. Bah quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que de mots vains on m'inonde. Critiques, artistes abondent en intarissables facondes. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, oh la Joconde. Venez voir le sourire, la Joconde, c'est le plus beau du monde. La Joconde, c'est moi que je suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde.
Voici le Vox Pop de la semaine.
Je connais pas grand chose en peinture, moi, là.
Quel genre de peinture? Ben oui, je l'ai décoré chez nous, je l'ai mis de la peinture sur mon mur.
Pas, peinture pas, moi.
Disons que je suis pas mauvaise, là, mais oui. Qu'est-ce que tu veux savoir?
La peinture, quelle? La bleue, la rouge, la verte?
Non, la peinture, je suis bonne dans ça.
En fait, je suis bonne en couleurs. Je mets bien les couleurs. Je peux faire du shadow, n'importe quoi. Je suis pas mal bon. C'est ce que ça veut dire, le shadow?
Non.
Ça, c'est comme l'ombre. Fait que si je fais un dessin sur le mur ou à terre, il faut que ça soit un petit peu plus foncé.
Moi, je fais du camping. Je fais des fois la peinture sur des planchers de camping. Là, des...
Si j'ai deux couleurs à rajouter, ben, je vais faire mon découpage.
Oui, j'agence avec... j'essaie d'apprendre les couleurs qui vont avec mes accessoires. Sinon, ben, on les change. Je ne change pas d'accessoires à chaque fois que je peinture, là, quand même. Ça va coûter cher. Mais j'agence ça avec les couleurs que je prends pour me mettre sur mes lots.
J'ai été chercher des couleurs, là. J'ai regardé, puis j'ai choisi.
C'est un petit peu trop flyé, je trouve. Ça fait fond. De toute façon, c'est très beau, ces couleurs-là, mais ça te prend de quoi de grandiose, tu sais. L'espace, c'est le moindrement trop petit, mais ça rapetisse la pièce, à mon goût.
Je reste seul dans cet appartement-là, fait que j'ai pas moins de couleurs.
C'est ça. Ouais, blanc, on met tout blanc parce qu'on va commencer à mettre des couleurs parce qu'il y avait des logements, des propriétaires, ils n'ont pas ça, des couleurs. Fait qu'on peut être tout, tout blanc, on n'a pas le choix.
Hop, oh boy, le dernier coup, c'est à vrai.
Fait que vous avez peinturé par la grandeur?
On veut ce salon, quoi, ça.
Ben, ça dépend des appartements. J'ai déjà eu des roses pâles, là. Rose pâle d'un côté, puis rose plus foncé sur l'autre bord, là. Des affaires comme ça.
Aux trois mois, je lave aux trois mois parce que c'est pour après, parce qu'on fume à la maison, puis on peinture une fois par année. On tient ça propre.
Mais il y a assez que la cuisson, ça fait journée. Tout le monde fume dehors.
J'ai pas le droit de parole. C'est les femmes qui décident.
Ah, mais ça prend une femme pour faire ça, puis on n'en a pas. Mais vous engagez, vous?
Non, pas vraiment. Tu laisses faire ça les autres. C'est le fun de faire ça par les autres. Ben, c'est le propriétaire qui le fait.
Mais pas moi, là. Mon mari.
Puis est-ce qu'il est bon pour peinturer? Il fait ça, tu croches?
Ça va. 50-50. Mais les bordures, là, ils dépassent.
Ah, ben là, ça fait 45 ans que je suis marié. C'est la même femme. Fait que. On s'endure. On n'a pas le choix.
Quand on mélange du radium avec d'autres produits, par exemple le sulfite de zinc, il est possible d'obtenir une substance qui luit dans le noir. On peut même faire de la peinture avec ça. De la peinture qui luit dans le noir. Mais là, allez pas peindre votre chambre avec de la peinture au radium dans le but d'épater vos amis ou d'économiser sur l'achat d'ampoules. Le radium, c'est radioactif. Radium, radioactif. C'est un bon truc pour le retenir. Alors, à moins de porter une veste de plomb quand vous êtes proche de la dite substance, c'est pas conseillé. Mais si aujourd'hui on ne s'approcherait pas d'une peinture au radium sans porter une telle mesure de sécurité, on n'a pas toujours été aussi prudent. Entre 1917 et 1930, la United States Radium Corporation employait des centaines de femmes pour peindre des chiffres sur des cadrans de montres en utilisant la fameuse peinture au radium. Les heureux propriétaires de ces montres pouvaient donc aisément lire l'heure dans le noir. Yay! Wouhou! Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas super facile de peindre d'aussi petits chiffres. Il faut être très minutieuse. Les ouvrières pinçaient donc le pinceau entre leurs lèvres, comme plusieurs artistes le font, pour obtenir la plus petite pointe possible. Après tout, on leur avait assuré que la peinture était tout à fait inoffensive. Pendant ce temps, les chimistes et les propriétaires de la compagnie utilisaient des masques et des gants pour manipuler la peinture. Inoffensive. Éventuellement, aux surprises, les ouvrières sont toutes tombées malades. Leurs dents tombaient, leurs jointures faisaient mal, les os de leurs mâchoires s'usaient anormalement, etc., etc. Une ancienne ouvrière a finalement décidé de poursuivre la compagnie. Ça a été difficile. La US Radium Corporation a tenté de faire croire que toutes ces femmes-là souffraient en fait de syphilis. Elles ont finalement gagné leur combat et plusieurs des lois protégeant les travailleurs aux États-Unis aujourd'hui sont directement liées à ce procès-là. Les ouvrières ont été baptisées par les médias les Radium Girls. Vous écoutez dans le champ lexical et le mot cette semaine, c'est peinture. Et ce qui joue en ce moment, c'est la pièce Radium Girls de Akido. We'll be right back.
Le portrait de Dorian Gray est vraiment un roman exceptionnel écrit par l'Irlandais Oscar Wilde. Il a été publié en 1890. L'histoire se déroule dans une époque où la beauté était une vertu extrêmement célébrée, que ce soit dans la société en tant que telle, autant que dans l'art. Et le message est aussi que succomber au péché et à la tentation, eh bien, ça pervertit l'âme. Le personnage de Dorian est un jeune homme aux traits harmonieux, voire même extrêmement beau. Il est jeune, encore naïf, et il n'a aucunement conscience de sa beauté rayonnante. Un jour, son ami Basil Hallward propose de peindre son portrait, et il se prête au jeu sans savoir que ce portrait-là va changer complètement sa vie. Parce que, à la vue du tableau, Dorian prend conscience de sa beauté et développe une certaine vanité, et il vend aussi, sans s'en rendre compte, son âme au diable. Dorian avança lentement, sans répondre. Arrivé au chevalet, il se tourna vers son portrait, eut un léger sursaut, et il ne put se défendre de rougir de plaisir. Une lueur joyeuse s'alluma dans ses yeux, comme si, pour la première fois, il venait de se reconnaître. Il restait là, cloué par la surprise, sachant à peine que Basil lui parlait, laissant glisser les mots sans les comprendre. Le rayonnement de sa propre beauté l'éclairait comme une révélation. Jamais avant ce jour, elle ne l'avait pénétré. Dans les compliments de Basil, il n'avait voulu voir que l'exagération charmante de l'amitié. Il les avait écoutés, pris en riant, puis oubliés. Ils étaient restés sans influence sur lui. Et maintenant que l'extase l'immobilisait devant l'image de sa propre beauté, voici que dans une clarté fulgurante, il en saisissait toute la vérité. Oui, un jour viendrait où son visage serait creusé de rides et flétri, ses yeux vagues et éteints, la grâce de ses lignes alourdie et faussée. L'écarlate s'effacerait de ses lèvres, et ses cheveux perdraient leur or fluide. La vie, à mesure qu'elle formerait son âme, déformerait son corps. Il lui faudrait devenir horrible, hideux, grotesque. « Oh, quelle pitié !» murmura Dorian Gray, les yeux encore fixés sur son portrait. « Quelle pitié ! Je deviendrai vieux, horrible, repoussant. Et cette peinture restera toujours jeune. Elle ne sera jamais plus âgée que ce jour de juin. Ah, que n'est-ce le contraire ? Que n'est-ce à moi de rester toujours jeune et au portrait de vieillir ? Pour ce miracle, je donnerai tout. En vérité, il n'y a rien au monde que je ne fusse prête à sacrifier. Pour ce miracle, je donnerai mon âme. » Bon, ce sont des paroles qui sont prononcées comme ça, sans réelle conséquence. Et bien vite, Dorian est ébloui par la beauté d'une jeune actrice, Sibyl, qui le subjugue carrément par son jeu d'une pureté absolue. Mais lorsque son jeu s'altère à cause de l'amour, il est dégoûté, il lui fait une scène affreuse et la rejette. Et la pauvre femme va se suicider. C'est là qu'il se rend compte que le souhait qu'il avait formulé à propos de la peinture un peu plus tôt s'est réalisé, c'est-à-dire que le tableau devient le reflet de son âme et se modifie à chacun des péchés commis et il y en aura une longue suite. À la fin, il montre le portrait à son ami Basil qui l'a réalisé et la vision est horrible. « Ainsi, Basil, vous croyez qu'il n'est donné qu'à Dieu de voir les âmes? Tirez ce rideau et vous verrez la mienne. » La voix qui parlait était froide et cruelle. « Ou bien vous êtes fou, Dorian, » fit Hallward, fronçant les sourcils. « Ou bien vous jouez une comédie. »« Vous ne voulez pas. Il faudra donc que je m'en charge moi-même, » dit le jeune homme. Et déchirant le rideau, il l'arracha de sa tringle et le jeta par terre. Un cri d'horreur s'échappa des lèvres du peintre à la vue du hideux visage qui, dans le clair-obscur, grimaçait sur la toile. L'expression en était telle qu'il fut empli de dégoût et de haine. Ciel, ce visage était celui de Dorian Gray. Tant d'horreurs qui s'y mêlaient n'avaient pu détruire entièrement sa beauté merveilleuse. De l'or restait dans les cheveux éclaircis, du carmin sur les lèvres sensuelles. Les yeux éteints gardaient en partie leur ravissant azur. Ni les narines exquises de ciselure, ni le cou d'une plastique sans défaut n'avaient perdu tout à fait leur noble ligne. Oui, c'était bien Dorian. Mais de qui était le tableau? Il lui semblait reconnaître son propre coup de pinceau. Et le cadre était bien le même qu'il avait dessiné. Une crainte monstrueuse l'assaillit, sans qu'il pût s'en défendre. Il saisit la lumière, l'approcha du portrait. Dans le coin, à gauche, son nom se détachait en hautes lettres vermillon. Il voulut croire à quelque odieuse parodie, à quelque ignoble et infâme dérision. Jamais il n'avait peint pareil visage. Et pourtant, c'était bien son tableau. Il le reconnaissait maintenant. Il lui sembla que tout le feu de ses veines s'était transformé soudain en une glace immobile. C'était son tableau. Comment y rien comprendre? D'où venait qu'il eût ainsi changé? Il se retourna, fixant sur Dorian Gray des yeux de fièvre. Sa bouche était contractée, sa langue sèche à ne pouvoir articuler un son. Il se passa la main sur le front. Une sueur froide y perlait. « Je ne puis croire que ce soit là mon tableau. »« Eh quoi? Vous n'y retrouvez pas votre idéal? » ?»« Mon idéal, comme vous l'appelez, n'offrait pas de traces de corruption, pas traces d'ignominie. Vous incarniez pour moi une perfection que jamais plus je ne retrouverai, tandis que ce visage est celui d'un satyre. C'est le visage de mon âme. » Grand Dieu, si cette image est vraie, si c'est là ce que vous avez fait de votre vie, il faut que vous soyez encore plus dépravé que ne l'imaginent vos détracteurs. Hallward revint au portrait qu'il regarda attentivement. Levant la bougie, il se reprit à examiner la toile. La surface en paraissait intacte, telle qu'au sortir de ses mains. C'était du dedans, apparemment, que provenait l'horrible pourriture. Par quelque étrange phénomène de vie intérieure, la lèpre du péché rongeait lentement le portrait. La décomposition d'un cadavre au fond de la tombe humide offre moins d'épouvante.
Qui est la première personne qui vous a demandé hey, toi, tu sais dessiner, peinture-moi?
En fait, c'est une compagnie d'événements qui avait à la dernière minute une cancellation d'une maquilleuse pour enfants, les visages. Puis moi, j'ai trouvé que le visage n'était peut-être pas assez comme toile, donc ça grandit. Exactement. Mon nom, c'est Ginny et je suis maquilleuse artistique, donc j'utilise le corps humain comme toile.
Ginny fait du body painting, de la peinture corporelle. C'est même une des rares spécialistes de la discipline. On fait souvent appel à elle un peu partout dans le monde pour venir montrer des techniques ou pour être juge dans plusieurs concours internationaux. Elle a même déjà remporté le premier prix du World Body Painting Festival. Mais qu'est-ce que c'est exactement de la peinture corporelle? Ben, disons que c'est une forme extrême de maquillage qui consiste à, comme le dit Ginny, à se servir du corps d'un ou une modèle comme toile.
Le body painting comme tel, ça peut être une moitié de corps, le haut du corps, les jambes, peu importe.
Avez-vous une spécialité?
Une spécialité. En fait, je me suis fait reconnaître pour faire beaucoup de, en anglais on dit des beautiful nothing. C'est des maquillages, un beau rien du tout. C'est des courbes, des curls and swirls, là. Des belles, des dégradés de couleurs avec des brillants puis des beaux, des beaucoup de pinceaux. Là.
Et on appelle ça de la peinture corporelle, mais est-ce que c'est vraiment de la peinture? Est-ce qu'on y va à grands coups de pinceau avec de la peinture liquide comme si c'était un mur ou une feuille d'une toile?
En fait, ça, c'est une très bonne question parce que non, c'est pas au rouleau en passant. On peint pas les murs, mais c'est du maquillage. Moi, les produits que j'utilise, c'est une ligne que j'ai développée. Donc, c'est vraiment des cosmétiques qui sont activés à l'eau qu'on utilise.
De la poudre, de la
C'est une pastille de couleur qu'on peut activer à l'eau, soit avec des pinceaux, avec des éponges. Donc, c'est facile à nettoyer. En fait, il y a beaucoup d'ingrédients, là, mais c'est une forme qui est solide. Puis une fois qu'on utilise un pinceau ou une éponge avec de l'eau, ça devient, on peut créer la consistance qu'on veut. Donc, ça peut devenir crémeux si on met un petit peu moins d'eau. Si on met plus d'eau, on peut créer plus comme un liquide. Donc, c'est avantageux parce qu'on peut créer la consistance qu'on veut dépendamment de ce qu'on veut faire.
Et donc, avec une pastille comme ça qui est ronde à peu près comme, ça fait quoi, 3 cm de diamètre? À peu près.
Ça, c'est
2 cm de diamètre. On peut étendre combien de surface avec ça?
Avec une pastille qui a 40 grammes à l'intérieur, on peut faire facilement 2 corps complets juste avec une couleur.
Wow.
Ouais.
Donc, pas de peinture, mais plutôt des produits maquillants dont les couleurs sont vives et éclatantes. Le maquillage couvre tellement bien la peau qu'on peut facilement oublier que la personne maquillée est en fait complètement nue.
On a fait des sessions de photos à New York, puis à l'extérieur, ma modèle se promenait, elle était maquillée comme si elle était habillée, puis les gens la regardaient même pas, là, si ça passait, puis finalement, on faisait les sessions de photos, puis il y en a à un moment donné qui réalisent, puis ça a fait un genre de foule, mais sinon, elle pouvait marcher sur le trottoir, puis il y a personne qui remarquait, donc il faut vraiment porter une attention.
Considérant que le matin, une femme peut facilement prendre une quinzaine de minutes simplement pour se mettre du mascara, du fard à joues et du rouge à lèvres, vous imaginez bien qu'on ne maquille pas un corps en entier en quelques minutes. Il faut au maquilleur environ 6 heures de travail pour créer son œuvre. Ginny y arrive parfois en 4 heures parce qu'elle maîtrise bien ses techniques. Une fois terminé, le modèle fait une séance photo, il parade un peu, passe devant les juges si on est dans une compétition, puis ben, il s'en va dans la douche et c'est 6 heures de travail qui disparaissent comme ça. Est-ce que c'est difficile de voir ses œuvres disparaître aussi rapidement, de travailler dans l'éphémère comme ça?
Non, pas du tout. C'est toujours intéressant pour nous de le voir terminer, c'est certain, prendre les photos. Puis c'est le fun aussi de voir que le modèle peut retrouver la couleur de peau qu'il avait avant qu'on commence.
Ouais, de finir tout bleu, ça doit pas être... En ayant fait plusieurs voyages à différents endroits, êtes-vous tombé sur une culture où la peinture corporelle ou le fait de peinturer sur des corps avait une signification culturelle un peu différente ou un peu étonnante?
Aux États-Unis, c'est surprenant, pas partout, mais dans certains États, le body painting, il faut pratiquement maquiller sur une camisole, là, parce qu'ils peuvent pas, on peut pas montrer un sein, parce que c'est... Puis après, on va maquiller en Europe, ou on peut aller maquiller en Australie, puis il y a aucun problème. Donc, c'est vraiment de s'ajuster. Il y a des endroits où ils veulent pas, donc on couvre un peu, puis on maquille par-dessus du tissu, ce que j'adore faire. C'est sarcastique.
J'ai remarqué en cherchant les photos que c'était 95% des femmes qui se faisaient peindre. Est-ce que c'est parce que le corps de l'homme n'est pas assez beau pour être peint?
Non, en fait, je pourrais peut-être en profiter pour faire une annonce, mais dire on a besoin. Moi, j'aime maquiller les hommes et les femmes. C'est surtout que les femmes se portent plus souvent volontaires. Mais les hommes sont bienvenus, c'est certain.
Est-ce qu'il faut idéalement être imberbe?
C'est l'idéal, je dirais que les petits détails, ça fonctionne pas bien à travers les poils, mais on peut couvrir par-dessus les poils, on peut même en mettre dans les cheveux, dans la barbe, on peut changer la couleur du poil, il n'y a pas de problème avec les pinceaux, les éponges, mais ce serait difficile d'aller faire des détails, c'est certain.
Est-ce qu'il y a des parties du corps qui sont plus problématiques ou plus inspirantes?
Si on parle du visage problématique, si les sourcils sont vraiment gros et pras, s'il n'y a pas beaucoup de front ou pas beaucoup de paupières, dépendamment du style qu'on veut, de maquillage qu'on veut faire, si on veut créer un masque ou quelque chose comme ça, mais de couvrir les sourcils, des fois, c'est plus problématique. Donc, si je maquille, des fois, il y a les Asiatiques qui ont beaucoup de paupières et moins de sourcils, ça devient plus facile à travailler à ce moment-là. Mais sinon, c'est toujours, on peut toujours adapter nos concepts. Les sourcils, hein, je peux les couvrir, c'est juste un petit peu plus de travail.
Après une vingtaine d'années à peindre des corps, Jenny a trouvé un nouveau terrain de jeu, les ventres des femmes enceintes. Les futurs parents viennent à son studio et la mère se fait peindre sur le ventre un dessin de leur choix, quelque chose qui représente peut-être l'enfant à venir, qui représente la relation des deux parents ou juste un beau dessin. Et ils repartent avec des photos de l'œuvre.
Est-ce que la pédaine est un endroit intéressant à peindre?
C'est certain, chaque concept doit avoir une certaine rondeur parce que c'est tellement, il y a des bédaines qui arrivent des fois dans mon studio puis c'est vraiment des belles grosses bédaines. J'ai eu des jumeaux avec des bédaines prêtes à exploser puis ça devient vraiment une belle grosse toile, donc c'est intéressant à travailler, c'est certain. Des fois, il y en a qui sont pas tellement, sont prêtes à coucher, puis la bédaine pas tellement grosse, à ce moment-là, ben je demande au modèle d'exagérer puis de pousser un peu, de grossir leur bédaine, parce que ça fait plus beau pour la photo.
Bonjour, soir. Ici Sonny Duval, en plein dans la peinture. Les nuages peints dans le ciel font penser à ta peau. La rousseur peinte sur elle forme un si beau tableau. Nage des chevaux doux et coule le printemps.
Now places in Moscow too, the British Hollywood's on Baffin. You must cross the muddy river with love tends to you, love tends to you. Down love, there's only one way. On back from here. They say you don't love, they say you don't love, 'cause it'll disappear. Thank you.
dans Champ Lexical cette semaine. On vous laisse aujourd'hui sur cette citation d'un certain Pablo Picasso. Certains peintres transforment le soleil en un point jaune. D'autres transforment un point jaune en soleil. Dans le champ lexical est une émission en plusieurs tableaux de Mathieu Charlebois et Joannie Larue. Dans l'atelier avec nous cette semaine, Christiane Campagna aux chansons thématiques, Annie Rossano au vox pop, Lisanne Rault-Leblanc à la lecture et à la voix d'or, Sonny Duval à la chanson originale et Dominique Charron à la recherche. Un merci tout particulier à Myriam Dagouzan-Bernier, dite « Ma mère était hipster », de l'espace d'exposition DHC Art, qui nous a livré sa définition de peinture. Vous pouvez d'ailleurs télécharger la toute nouvelle application pour iPhone de DHC Art et approfondir le contenu de leur exposition, en plus d'en apprendre plus sur les pratiques actuelles en art contemporain. Pour notre part, on vous revient la semaine prochaine, même heure, pour tourner autour du mot « parfum ».